Bienvenue sur Avocado Growth Parcours Tech, le podcast où nous vous emmenons dans un voyage captivant à travers les coulisses de la tech. Dans chaque épisode, nous explorerons les histoires inspirantes de développeurs, data scientists, experts en cybersécurité, designers et bien d'autres. Découvrez comment ils ont commencé, les défis qu'ils ont relevés et les conseils qu'ils ont à offrir. Sur Avocado Growth Parcours Tech, vous trouverez une diversité de parcours, d'expériences et de conseils pour vous aider à tracer votre propre voie dans le monde de la tech. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur Avocado Growth Parcours Tech. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Damien. Salut Damien, comment ça va?
Salut, ça va super bien.
La forme?
En forme.
Merci. Moi, ça me fait plaisir de t'avoir ici. Pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter rapidement?
Alors, pour faire vite, moi, je m'appelle Damien Toscano, j'ai 32 ans encore pour quelques semaines, bientôt 33, et je suis développeur web depuis 3 ans après une reconversion.
Ok, donc parcours reconversion, avant ça, tu faisais quoi?
Alors, avant la reconversion, j'ai travaillé 5 ans dans le web marketing. Donc, j'étais pas trop loin du monde du développement web. Je travaillais avec des développeurs et j'aimais bien ce que eux faisaient, j'aimais moins ce que moi je faisais. Et du coup, c'est ça qui m'a mené un peu dans cette idée de reconversion, même si depuis le début de mes études, j'ai ça en tête. Mais j'ai mis un moment à y arriver.
Ok, donc tu étais proche des devs, tu t'es dit « je vais regarder un peu ce qu'ils font », c'est un peu par curiosité que t'es arrivé.
Ouais, c'est ça. Au fait, si je peux revenir un peu à la base de là où le dev m'a intéressé, c'était juste après le lycée. Donc ça remonte un peu, c'était en 2008. Ça fait un moment déjà. Et si tu veux, au lycée, ça m'intéressait pas de ouf. En première et terminale, j'étais pas super intéressé par ce qu'on faisait. C'était trop générique. Enfin, voilà. J'avais un groupe de potes super cool. Du coup, on faisait plus des blagues et on se marrait qu'on travaillait. C'était une époque très cool. Et j'ai failli pas avoir mon bac, du coup, du premier coup. Je suis passé au rattrapage. Je faisais pas grand chose. Et au moment de réfléchir à ce que je voulais faire après, moi, j'étais super intéressé par l'informatique. C'est un domaine où je savais que ça me plairait. Je voulais vraiment travailler là-dedans, dans le développement. Sauf que du coup, comme j'ai rien fait pendant les deux dernières années de lycée, je voulais faire un IUT informatique et ils m'ont pas pris. Et du coup, j'étais là, ah merde.
Ça fallait que je me réveille avant.
Ouais, voilà, donc c'était un peu tard. Je me suis bien amusé, mais là, du coup, je me suis pris un peu une claque et je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Et j'ai suivi des potes à l'université de gestion. Je connaissais pas, ça avait l'air assez générique pour trouver un domaine qui te plaisait dedans. Et j'ai continué, du coup j'ai fait 5 ans d'études en marketing.
Okay.
Ça me plaisait bien, j'aimais bien le domaine et tout, je trouvais ça intéressant. Il y avait quelques notions de web aussi, parce qu'il y avait des spécialisations web marketing, donc sans parler de développement, on arrivait à voir un peu de web design, voir un peu comment se passe le monde du web sans rentrer dans le code.
Donc, ça, déjà, des petites bases, quoi.
Ouais, c'est des petites bases. Et puis, ça te permettait un peu de me défrustrer, on va dire, de pas avoir réussi à commencer dans la tech. Et au fil des années, du coup, je me suis bien plus là-dedans. Donc, j'ai continué, j'ai fait ma licence. En master, ça me plaisait vraiment bien puisque là, tu commences à choisir tes spécialités, t'es plus générique, tu fais vraiment quelque chose qui te plaît bien. Donc, moi, j'ai fait marketing international. J'ai été travailler un peu à l'étranger. Pour un stage et après quand je suis revenu du coup j'ai fini ma dernière année et là pour ma dernière année j'ai fait un stage dans une boîte où en gros je faisais à la fois du marketing et à la fois du web, mais c'était du petit web sur des outils no code, je sais même plus ce que c'était, où j'avais dû faire un petit site en no code et pour la boîte où j'étais plus le marketing autour du site.
Ouais, c'est déjà c'était intéressant quoi, tu crées déjà un petit site. Ouais, c'est ça.
Et je me suis dit, c'est trop bien, j'ai envie de faire ça de ma vie, j'ai pas envie de faire la partie marketing. Et en fait, j'avais pas trop, je me sentais pas encore de me lancer direct dans le marketing, parce que toutes les offres d'emploi que je voyais, ils demandaient un peu une double compétence en compréhension du web. Des trucs basiques, mais un peu de HTML, CSS et tout, ils demandaient un peu d'avoir les bases, parce que dans le web marketing, tu peux avoir besoin de modifier quelques fichiers ou de faire des intégrations via des builders, donc de connaître un peu comment ça marchait. Et moi, je l'avais pas encore. Et au fait, le hasard a fait, et je remercie le hasard, dans la fac où j'étais, ils proposaient un truc que je connaissais pas. C'est un deuxième master 2. En fait, tu fais une année en plus après ton master 2 pour apprendre le faire une initiation au développement web.
Ok.
Pendant un an, tu prends les bases, donc tu commences à faire de l'algorithmie, tu fais du HTML, CSS. Nous, on avait fait du Java à l'époque. Et du coup, pendant un an, j'ai pu comme ça.
Toucher aux bases.
Et voilà, j'avais les bourses, donc j'étais un petit peu payé pour faire ça, mais toucher aux bases. Et ça touchait à tout, en plus, comme quand tu fais des études, donc il y avait des cours de réseau, des cours de tout ce qui touche à l'informatique, donc c'était super intéressant. J'étais trop content d'avoir fait ça. Je me suis beaucoup plus amusé en un an de découverte de l'informatique qu'en 5 ans d'études en marketing.
C'est ça. Quand le sujet, en fait, en vrai, te plaît,
ça change tout. Ça change tout aux études. Hein. Le problème, c'est que c'est dur de savoir dès le début, avant de te lancer dans les études, ce qui va vraiment te plaire.
C'est donc, très dur. Moi, au lycée, j'ai toujours aimé l'informatique, mais pareil, moi, j'étais avec mes potes, on rigolait. Je suis arrivé en terminale, fin du jeu pour moi. Tout le monde a fait autre chose et plus d'école pour moi.
Ouais, c'est ça, c'est que t'es pas assez mature au lycée pour ça, et puis t'as pas assez d'expérience dans ce que t'as fait pour savoir vraiment ce qui va te plaire, quoi. Moi, je pense que c'est rare les personnes qui vraiment s'amusent à 100% pendant leurs études parce qu'elles savent que c'est ça qu'ils veulent faire, elles savent que c'est ça qui est fait pour eux. C'est un peu galère. Et du coup, cette année était trop bien. Et donc là, je me suis dit, maintenant j'ai ma double compétence marketing web, je vais pouvoir trouver un travail facilement. Mais ce qui me plaît bien, c'est le développement, quoi.
C'est le dev.
Et donc, je me suis posé pas mal de questions à ce moment-là. Et au fait, il y avait deux problèmes, on va dire, qui ont fait que j'ai choisi le marketing. C'est que je venais de passer 5 ans à apprendre le marketing. Donc, ça me faisait chier de dire, j'en fais plus et je travaille même pas dedans.
C'est ça, je laisse tout tomber.
Je trouvais que c'était dommage de laisser tomber tout ce temps que j'avais investi, quoi, parce que ça me plaisait quand même bien.
Oui, voilà, t'as appris des choses aussi.
C'était quand même bien, donc je voulais pas non plus tout perdre. Et j'avais fait qu'un an d'informatique. À l'époque, il n'y avait pas encore toute la mode des écoles de reconversion et tout. Donc du coup, pour moi, ça me paraissait peu pour rentrer sur le marché du travail en tant que développeur. C'était pas un an en informatique pour devenir développeur, quoi. C'était un an pour apprendre un peu les bases et éventuellement.
C'était plus de la curiosité, quoi. C'est que tu découvres.
C'était acquérir la double compétence et pas devenir développeur. Donc, du coup, j'ai commencé à travailler en web marketing dans une entreprise dans le sud de la France, à Aix-en-Provence. C'était cool. Il faisait beau là-bas. Et j'ai travaillé dans cette entreprise pendant 5 ans. Du coup, c'était ma première boîte. J'ai eu de la chance, j'ai trouvé direct, du coup, après mes études. Vu que j'avais la double compétence, eux, c'est ce qu'ils cherchaient. Ils m'ont dit, allez, viens, on va faire des trucs ensemble. Et du coup, j'étais dans un bureau où il y avait moi et que des développeurs.
Ok, donc.
Autant te dire que pour un gars qui vient de se poser la question s'il voulait faire du marketing ou du développement, j'étais un peu frustré au quotidien, quoi.
C'est ça. T'es posé au bureau. Ton rêve, il est là avec toi.
C'est ça. T'es dans le bon bureau. J'avais juste pas le bon poste. J'avais pas le bon poste. J'avais pas le même salaire, du coup, que mes collègues développeurs, parce que c'est pas pareil. Et je voyais ce qu'ils faisaient et je trouvais ça trop bien. Et moi, je faisais surtout du marketing d'analyse statistique, des trucs comme ça. Donc, j'aimais bien, tu vois. J'avais l'occasion de développer des petits trucs aussi pour monter des petits web services ou des trucs comme ça. Mais ça restait léger. J'essayais de leur faire me grappiller un peu des petites missions de temps en temps, tu vois, quand je pouvais toucher un peu au code, je leur disais, allez.
S'il vous plaît, un petit truc. Donnez-moi du taf.
Donc, s'il y a moyen que j'en fasse et tout. Donc, en soi, c'était cool parce que ils m'ont laissé déjà, mettre un premier pied dedans. Parce que sans pratiquer, même avec mon année, au final, si tu restes 5 ans sans pratiquer le dev et que t'es plus du tout dans le contexte, je pense que tu oublies pas mal de trucs et faut partir de zéro après, quoi.
C'est ça, en plus ça change tellement vite que 5 ans c'est beaucoup, hein.
Donc déjà j'étais content qu'ils me laissent un peu cohabiter avec eux et puis faire des petites missions et en fait je crois qu'au bout de 4 ans je sais plus comment c'est venu, mais à la base j'ai un collègue qui on discutait et qui m'a dit que lui avait eu un financement pour faire une reconversion dans le web. Et là, je lui ai dit, mais comment ça, t'as eu un financement pour faire une reconversion web?
Dis-moi tout
ce que tu veux. Et moi, je m'étais jamais renseigné parce que pour moi, en gros, c'était fini, quoi. J'avais raté le coche, j'ai pas travaillé au lycée, c'est pas grave. J'avais un métier cool, hein. J'ai fait un master, j'avais un métier cool. C'est juste que c'était pas celui que je voulais. Donc, pour moi, c'était fini. Quand il m'a dit ça, j'étais là, genre, l'idée, elle est pas mal.
Ça.
On va peut-être creuser là-dessus. Et en fait, il m'a parlé à l'époque, ça s'appelait Fongessif. Et maintenant, c'est Transition Pro, ça s'appelle. C'est, je sais pas si tu connais l'organisme.
C'est ça, en fait, c'est quand tu es en poste, tu peux avoir un financement, c'est ça, hein, si
Ouais,
tu es
c'est
en
ça.
CDI, un truc comme ça.
Ouais, c'est ça. Faut être en CDI depuis un certain moment dans une boîte. Et au fait, tu peux être financé pour faire une formation. Je sais pas si c'est que de la reconversion ou tu peux aussi faire des formations pour monter en compétences ou les trucs comme ça. Mais moi, dans mon cas, c'était pour de la reconversion. En fait, faut monter tout un dossier. Ça prend des mois. C'est horrible parce
C'est
que
pas...
faut monter un.
J'avais aperçu ce truc pareil quand j'étais en poste, mais ça m'a paru trop, enfin c'était trop de papier pour moi. J'ai dit
Horrible. Franchement, c'était
voilà.
horrible. Il y avait une dizaine de pages à faire, de dossiers à remplir, faire des lettres de motivation, faire des entretiens vidéo, des trucs comme ça. Et moi, en plus, j'étais pas dans les meilleurs. J'avais pas le meilleur profil parce que, en gros, ils mettaient plus en avant, et ce qui est normal, des gens qui avaient pas forcément des hauts niveaux d'études ou des hauts salaires pour leur donner la chance de rebondir sur.
Autre
T'as
chose.
pas eu la chance de faire des études quand t'étais jeune, du coup, tu peux rebondir et pas rester coincé dans cette position. Moi, j'avais fait 6 ans d'études. Je peux te dire que j'étais pas du tout dans les prios. Ils ont dit, bah lui, mon chier, il n'y a pas besoin de faire un sou, quoi. Et du coup, j'ai dû faire un dossier béton. J'ai travaillé de fou. J'ai même eu des entretiens avant avec des gens qui travaillaient là-bas pour discuter en amont du projet et voir un peu ce qu'il fallait que je modifie et tout. Donc, ça a vraiment été des semaines intenses de travail. Et après, il y a des mois d'attente parce qu'il y a pas
Un
des sessions tout le temps.
jury,
Il faut que tu attendes que le jury passe.
c'est ça.
Et le jury peut très bien te dire non. Et après, il faut que tu attendes 3 mois pour attendre le prochain jury et espérer recommencer. Donc, tu vois, tu te prépares à un truc qui peut durer 1, 2, 3 ans.
C'est ça, c'est l'inconnu.
Ouais, c'est vraiment l'inconnu. J'ai eu de la chance. Moi, c'est passé dès le premier jury. J'étais trop content. Alors, ça a mis quand même, je pense, 6 mois entre le moment où je me suis dit je vais le faire et le moment où j'ai le jury qui a accepté. Ça a dû faire 4, 5 mois, un truc comme ça.
Mais
Donc,
ça
ça.
montre déjà ta détermination quand
Ah,
même, parce que
moi, j'ai
là,
senti
t'en
en 6 mois.
voulais, hein.
Ouais, pour moi, c'était bon. Il n'y avait plus d'options. Là, si j'avais pas le dev, j'aurais été prospecté, quoi, maintenant que je savais qu'il y avait ça. Et du coup, j'ai été pris. Et en fait, à partir de ce moment-là, ils te mettent des conditions de fou parce que ils te disent, tu trouves une formation, on va te la payer. Alors, soit tout, soit une partie. Mais surtout, la partie la plus intéressante, c'est que pendant toute la durée de la formation, jusqu'à 2 ans, ils te maintiennent ton salaire que tu as. Et
Ok.
ça, c'est monstrueux, quoi.
Ah, c'est top ça.
Donc t'as pas à te poser la question, bah je vais devoir travailler à côté pour payer la formation et tout. Donc en soi, la partie la plus intéressante, c'est le maintien de ton salaire, quoi.
Ah
Tu
oui,
peux
c'est grave
faire un an de
intéressant.
ta boîte et t'es payé comme si tu travaillais là-bas. Et tu peux revenir après.
Tranquillement, avec une nouvelle compétence.
Ouais, c'est ça. Donc pour ceux qui connaissent pas et qui se posent la question, Transition Pro. Alors ils sont devenus un peu plus stricts maintenant qu'à l'époque où je l'ai fait. Mais il faut tenter si vous êtes en CDI et que vous voulez changer. Ça te met des
Ah,
conditions.
c'est bon à savoir ça.
Des conditions de fou. Donc moi j'avais plus qu'à choisir mon organisme du coup. Je suis passé par O'Clock. Ça
Ok,
doit
au clock.
parler du coup c'est un truc assez connu. Et moi c'était en 2000. Alors ça fait 3 ans donc c'était en
2019,
2019 ouais.
20,
C'était en
2019.
2019 et en fait alors moi j'habite à La Rochelle donc c'est pas une grande ville et du coup on n'a pas d'organisme de formation en présentiel. Faut aller à Nantes ou à Bordeaux pour avoir les premiers trucs intéressants. Et moi, c'est 2 heures de route, quoi, donc je voulais pas faire
C'est
4 heures de
ça.
route par jour. Du coup, j'ai plutôt cherché du côté des trucs en télétravail, en distanciel. Et ça me dérangeait pas parce qu'à l'époque, j'étais en full télétravail depuis 3 ans.
Voilà, c'était déjà quelque chose que tu connaissais, c'était pas un grand
Mon
changement.
rythme et tout, ça me faisait pas peur du tout. Et donc voilà. Et du coup, au clock, j'ai fait parcours classique. Donc c'est pareil, t'as un dossier. Je crois que t'as un QCM à remplir au début où il te genre culture générale, niveau d'anglais et connaissances de base en informatique. Savoir si tu connais un petit peu 2, 3 trucs, parce que quand tu arrives de zéro, c'est quand même costaud. Et pareil, après, petite vidéo pour se présenter. Et après, c'est parti, quoi. Ils m'ont accepté. Et je crois que c'est début 2019, en février, que j'ai commencé. Et là, j'étais trop content d'avoir choisi du télétravail, parce qu'il y a le Covid qui est arrivé.
C'est
Deux
ça.
mois après en France, confiné et tout. Et au fait,
Toi, ça continue, toi.
pendant tout le confinement, j'ai eu ma formation de dev. Donc, en fait, c'était bien tombé parce que déjà, ma formation s'est pas arrêtée. Parce qu'il y en a qui faisaient des formations en présentiel et du coup, tout mis en pause. Et surtout, on n'avait rien à faire de nos journées, quoi. On
C'est
était bloqués
ça.
chez nous. Donc, moi, au fait, du matin jusqu'au soir, j'avais mes cours. Et après, je bossais le soir. Les cours, c'était, je sais plus, un truc genre 9h midi, 13h, 15h. Après, on avait des leçons après. Et tous les soirs jusqu'à, en général, je faisais 15h, 17h. Après, je faisais une pause pour profiter de ma famille et je reprenais le soir de 20h à 23h.
Non, mais c'est vraiment le rythme de la reconversion. Puisque moi, je sais que le Covid m'a impacté. Tu vois, ma formation, elle s'était arrêtée pendant 2 ou 3 mois hein,
Ouais, et
avec
toi,
le
t'es en pause
Covid.
pendant ta
C'est
formation.
ça, j'ai une pause. Bah, en fait, j'en ai profité, moi, pour me former de mon côté. Et pareil, j'essaie de garder ces horaires-là. Et c'est vrai que quand tu commences, bah, à comprendre ou même découvrir, enfin, c'est une excitation un peu.
C'est trop bien. Et puis, c'est pas la même chose quand t'as un prof qui t'explique des trucs et que tu fais ce qu'il te demande et quand t'apprends tout seul. Ça a rien à voir, quoi. Quand t'apprends tout seul, tu dois te débrouiller, tu dois débloquer des mécanismes en plus de compréhension du code. Enfin, c'est clairement trop bien à côté de l'autre truc, quoi.
Donc
Donc,
là, t'as fait une année chez O'Clock. Après ça, est-ce que tu as...
c'était même un peu moins, c'était 5 mois. 5 mois, j'ai pas fait l'alternance. Moi, j'ai fait formation de base. Je voulais pas non plus perdre trop de temps, tu vois. J'avais déjà bientôt la trentaine. Je voulais pas perdre trop de temps. Et du coup, c'était 5 mois. Alors, c'est 5 mois, c'est 4 mois de formation et 1 mois de projet. Donc, ça va super vite, hein. 4 mois de formation. L'idée, c'était de faire HTML, CSS, SQL, JavaScript et PHP. Donc, ça fonctionne en saison. Donc, une saison, ça dure 1 à 2 semaines et tu vois un chapitre qui concerne genre un langage ou une thématique. Et ça va super vite. Et du coup, t'es obligé de bosser tous les jours pour. En fait, t'es en retard tous les jours. Tous les jours, tu découvres un nouveau truc, t'as pas le temps de le comprendre et le lendemain, tu découvres un nouveau truc où faut que t'aies compris le truc de la veille. Donc,
Là, mais on a tous ce ressenti-là, c'est que le train il part dès le premier jour et c'est fini, on l'a plus jamais rattrapé.
moi, j'étais content du coup d'avoir eu mon année 4 ans avant d'initiation parce que j'avais plein de restes et ça m'a permis d'être tranquille. En fait, je me suis vraiment éclaté et j'ai pu faire tous les challenges possibles qu'ils mettaient parce qu'ils mettaient plusieurs niveaux de difficulté. J'ai pu m'éclater à aller taper les challenges difficiles tout le long de la formation. Donc c'était vraiment une bonne période, une bonne période. Et puis après, du coup, 1 mois de projet en groupe. Donc ça, c'était cool aussi parce que t'es vraiment lâché un peu dans la nature. En pseudo conditions réelles, c'est pas des vraies conditions réelles puisque t'as pas une entreprise derrière,
Oui, c'est ça.
mais t'es tout seul, t'es 4, 5 et il faut que tu montes un projet
De
de
A à
0.
Z.
Ouais, donc là c'est 3 semaines de travail où tu bosses de 8h du mat à 2h du mat, quoi, parce que il faut monter un truc de fou en
Et
pas longtemps.
après ça, vous avez la petite présentation sur YouTube.
Ouais, c'est ça, la petite présentation sur YouTube à la fin, c'est moi qui avais parlé, on était deux à avoir parlé, il y avait moi dedans, c'était cool aussi, ma première presse tech. Et là, j'étais trop content parce que t'as l'impression de savoir faire déjà plein de trucs par rapport au début et c'est trop cool.
Bah c'est ça, en vrai, faut être content parce que enfin tu rentres en formation, on va dire, sans grande connaissance, et dès que tu sors,
Et au
c'est déjà fou ce que tu as appris.
le truc, c'est que tu t'en rends pas compte parce que t'es tellement dedans, ça va tellement vite quand tu fais de la reconversion que t'as pas le temps de capter et tout. Mais au final, si tu compares entre ce que tu savais avant et ce que tu sais après, c'est complètement ouf, quoi.
C'est ça. Et après, au clock, tu finis la formation, tu sautes dans le marché du travail directement.
Ouais, c'est ça. En fait, j'ai eu la chance de trouver mon travail 2 mois avant la fin de la formation. Au bout de 3 mois de formation, je me suis dit bah faut commencer à chercher parce qu'il y a que 5 mois et je voulais pas avoir de pause entre les deux. Et du coup, j'ai trouvé une boîte que j'avais déjà vue qui était pas loin de chez moi. En fait, je l'avais déjà repérée quand je faisais du marketing parce que j'en avais marre de mon ancien métier. J'ai changé de boîte pour une autre boîte en marketing. Mais bah, quand l'idée de l'informatique m'est venue, bah, j'avais plus envie du coup de bosser en marketing. Mais en fait, ils recrutaient des devs aussi. Donc je me suis dit, allez, cette boîte, elle est pas loin, elle a l'air cool. J'ai monté une candidature béton, pareil, j'ai travaillé des jours dessus. J'ai envoyé un CV, ils m'ont écrit, ils m'ont dit, bah, nous, on peut éventuellement chercher quelqu'un, mais dans quelques mois, c'est OK. Moi, j'avais encore 3 mois de formation, donc il fallait qu'ils attendent un peu, tu vois. Et je leur ai dit, ben moi c'est parfait, donc on se retrouve à la rentrée en septembre. Et j'ai juste fait un entretien du coup, voilà, mais j'avais même pas fini ma formation, donc en fait l'entretien c'était tu discutes de la vie, quoi, et ce que t'as envie. Et
Ah, franchement, cool.
ça a trop accroché avec le recruteur de la boîte, du coup, il m'a bien aimé. J'ai même pas eu de test technique ni rien, tu vois, c'était juste histoire de dire, bah, de toute façon on sait que t'es junior, en reconversion, je crois que j'étais le premier. Ou deuxième en reconversion qui prenait, mais le premier de chez O'Clock.
Ok, mais ça doit faire enfin, ça doit être un bon sentiment, ça. C'est que t'as même
Mais
pas fini la
ça.
formation, que t'as un CDI, enfin un contrat qui t'attend.
Eh ouais, déjà, ça te motive. Déjà, à ce moment-là, je me suis dit, c'est bon, le Damien du lycée, là, qui travaillait pas, qui n'a pas pu faire la formation, là, c'est bon, c'est torché. Je me suis rattrapé, la vengeance est prise.
C'est
Et
ça.
surtout que j'ai pu finir ma formation de reconversion serein, parce que je savais qu'à la fin, c'était bon. Alors que bah, la plupart des gens, tu dois quand même passer la fin de ta formation à jongler entre bah, chercher un taf à mort et faire ton projet perso et tout, et c'est super stressant. Donc j'ai
C'est
eu
ça.
cette chance-là d'avoir trouvé mon job avec un CV envoyé. Je sais que c'est super rare, je le dis fort, pour pas que les gens croient que c'est super facile de trouver un taf de dev junior après une reconversion. J'ai
Et
eu
là,
beaucoup de chance, mais voilà quoi.
du coup, tu es dans la même entreprise depuis ce
Toujours
temps-là?
dans la même boîte, ça fait 3 ans. Ça
Ah,
fait
c'est
3 ans que
parfait,
je suis dans
franchement,
la même boîte,
chapeau.
toujours dans le même service, donc franchement cool. Donc un parcours un peu mouvementé, c'était long. Au final, entre le lycée où je me suis dit que je voulais faire ça et le moment où j'ai vraiment pu faire ça, bah, faut patienter, quoi. Mais du coup, je regrette rien au quotidien,
Ouais,
c'est.
mais on voit même depuis le début que tu es déterminé. Quand déjà tu montes ton dossier pour le fonds GSIF, moi
Déjà,
je
c'est
sais
une
que j'ai vu
grosse
le
étape.
dossier, j'ai lâché.
Ouais, c'est clair, c'est une grosse étape. Toi, t'es passé par quelle formation, du coup?
Moi j'ai trouvé une petite formation, j'étais sur Montpellier à ce temps-là, donc une petite formation en présentiel.
Ok.
J'avais fait la candidature pour O'Clock, mais Pôle emploi, ils n'ont pas voulu en entendre parler parce
Ouais,
que
pour l'emploi, ils aiment
c'est en
pas.
ligne.
Ils aiment pas O'Clock. Ils veulent que tu sois sur place et tout. Alors,
Voilà.
franchement, O'Clock, ils sont trop bien.
Ouais, mais moi je voyais au clock, franchement, je me suis dit je serais à la maison, ça paraissait trop cool. Et non, au final, j'ai fait une petite formation et voilà. Aujourd'hui, je suis là, ça va.
C'était combien de temps ta formation, toi?
C'était une formation de 6 mois plus 3 mois de stage, mais j'ai
Ah
pas pu
oui, c'est
faire le
cool.
stage avec le Covid.
Ah oui, bah oui.
Donc
Donc, t'as
voilà, maison et
6 mois de formation, quoi.
6 mois de formation et après ça, alternance.
Alors, au final, c'est pas beaucoup, 6 mois, mais c'est après que t'apprends, de toute façon.
Oui, voilà, de toute façon, ben, c'est un métier où on apprend tous les jours. Hein. Même aujourd'hui et encore, je continue d'apprendre et je
Ouais,
sais que dans 5 ans, ben,
bah,
c'est ça.
tous les jours, t'apprends. Donc, au final, le temps de formation est pas. Enfin, il est important parce que t'as des bases à connaître, mais tant que tu comprends comment apprendre des nouveaux trucs, en fait, c'est ça le plus important. Je sais que chez O'Clock, c'est ça qu'ils faisaient, c'est que ils t'apprenaient à apprendre des langages. Ils n'avaient pas pour principe de dire à la fin tu connaîtras ce langage. Ils partaient du principe de dire à la fin tu sauras comment continuer à apprendre ce qu'on a commencé, quoi.
Voilà, c'est ça, c'est un travail en fait d'exploration, ça.
Ouais, c'est ça. Donc si tu gardes la curiosité, la motivation, parce que ça peut paraître aussi énorme comme tâche d'apprendre des nouveaux langages et tout, parce que c'est quand même costaud, quoi. Bah après c'est facile, on va
C'est
dire.
ça.
Après c'est facile de rester motivé.
Et du
Donc
coup, dans ton
un gros parcours là, du coup.
yes. dans ton poste actuel là, t'es développeur front ou back?
Moi alors je fais un peu les deux, mais surtout back dans le poste où je suis. On a beaucoup plus de missions back, on va dire, et le front c'est très léger parce que si tu veux, nous on travaille surtout sur des ERP. Donc des logiciels métiers. Donc il y a pas de design, voilà.
C'est ça, c'est un truc
Graphiquement,
basique.
c'est pas créatif, c'est des tableaux de bord qui sont tous pareils parce que c'est le même logiciel à peu près partout, mais s'il y en a plusieurs, ça reste du tableau de bord avec des listings, du CRUD et plein de fonctionnalités back pour plein de process. Donc c'est cool, le back est très complet. Et d'ailleurs, je travaille avec Hugo qui a fait le podcast il y a quelques moments. C'est juste mon voisin de gauche, tu vois. Alors là, je suis dans le fond du rue, mais vraiment, je tends le bras et je peux lui faire coucou sur l'épaule.
Un petit bonjour à Hugo.
Ben, il passe le bonjour aussi. Il m'a dit avant que je parte, il m'a dit, oh, tu lui passes le bonjour. Et du coup, il t'avait beaucoup expliqué cette partie-là. Donc, on a
C'est
beaucoup,
ça.
beaucoup, beaucoup de process parce qu'on a plein de services avec lesquels on travaille. On a des services de compta, de logistique, de marketing, d'appels clients et tout. Donc, en fait, nous, on développe les logiciels pour que toutes ces personnes puissent travailler et puissent travailler ensemble. Donc, ça fait une base de données énorme, ça fait une code base énorme, plein de logiciels dans tous les sens. Et c'est cool parce que tu peux travailler avec des gens différents. Donc, c'est
Mais
plutôt sympa.
tu m'as dit que tu bosses, enfin, tu es sur le bac, et enfin, je viens de rebondir parce que j'ai vu passer sur Twitter ton petit Pokédex.
Ouais.
Et pour quelqu'un qui travaille beaucoup sur le bac, franchement, le travail, il est incroyable.
Alors, je travaille sur le bac pour mon CDI,
Mais à
mais en
côté,
vrai, c'est aussi je pense
tu touches un
tout ce
peu.
que je fais, je suis complètement full stack parce que mais il n'y a pas d'aspect créatif dans ce qu'on fait en front, quoi. C'est du fonctionnel. Il faut que les gens puissent utiliser les interfaces, il faut que ça fonctionne. Mais voilà, on va pas faire des animations dans tous les sens et des trucs qui cassent les codes du design.
C'est
Donc,
ça.
moi, comme j'aime bien faire les deux, j'ai eu du mal à choisir, justement, pendant la formation chez O'Clock, il fallait choisir le parcours front ou back. et c'était Symfony ou React. J'ai eu du mal et moi j'ai préféré commencer par le bac parce que bah, j'aimais beaucoup ça. Et je me suis dit que, alors je m'étais dit que ça serait peut-être plus facile pour moi d'apprendre le front après que d'apprendre le bac après. C'était plus par rapport à ma logique, à ma logique personnelle.
Comment tu voyais les choses ?
Ouais, que je préfère avoir des bonnes bases en bac et après le front, j'aimais déjà beaucoup ce qui était web design ou et quoi de par mon ancien métier. Donc, comme j'avais déjà ces bases-là, je me suis dit qu'allez, je me concentrais sur le bac pour faire ça. Et au fait, comme j'aime beaucoup les deux, je compense le fait de faire beaucoup de bac dans mon job pour faire beaucoup de front dans mes projets perso. Je pense que ça se voit. Parce que franchement,
c'est ça. Non, franchement, j'ai regardé ton Pokédex là, il était super, bien développé.
Ah, c'est gentil.
Belle couleur, un beau design.
Ouais, je me suis vraiment éclaté dessus. Et du coup, en perso, je fais que des projets front principalement. Que des trucs design sur des projets, sur des thèmes que j'aime bien et de la 3D aussi. Je me suis mis à la 3D avec TriJS il y a 2 ans maintenant.
Mmh.
Longtemps. Et j'aime trop faire de la 3D et je trouve ça cool et voilà. Donc ça, je peux encore moins en faire dans mon quotidien parce que
c'est ça.
Avec de la 3D, il n'y a aucun intérêt. Mais du coup, je m'amuse à en faire le midi, le soir quand je bosse sur mes projets. Bah, c'est sur ça que je me lance, quoi.
Donc là, actuellement, ton projet perso, c'est quoi là?
Là, alors cette semaine, j'ai bientôt fini normalement. C'est un Pokédex aussi. Alors toi, je sais pas duquel tu parles. C'était celui en petit vintage ou un vrai avec plein de couleurs
Moi, j'ai eu plein de couleurs, tout ça.
Ouais. Donc toi, c'était un vrai site Pokédex avec des animations, transitions de pages et tout.
Ouais, c'est ça.
Celui-là, je l'ai fini normalement, sauf si j'ai des nouvelles idées. Donc ça, c'était trop cool. Je me suis trop amusé. Je l'ai fait en Next. Du coup, je voulais découvrir et j'ai utilisé Tailwind dessus pour le style et du JZap aussi pour les animations.
Mmh.
Et ça, c'était trop cool. Et là, en ce moment, j'en fais un deuxième Pokédex. En vrai, c'est mon troisième. C'est mon thème préféré quand je veux développer des nouvelles techno que je connais pas. Et là, c'est plus une application pour Mac pour avoir un petit Pokédex vintage dans la barre de menu là-haut à tout moment.
Ok.
Là, c'est avec Laravel et LiveWire et un package qui s'appelle Native PHP qui permet de transformer un site Laravel en application multi OS.
Ah, mais c'est super cool ça.
Ouais. Donc je voulais tester ça parce que on peut éventuellement être amené à travailler sur ces technos au travail. Bah, du coup, en guise de veille, je me suis dit, je vais me faire un petit projet sur un thème que je connais bien, Pokémon, parce que j'aime bien. L'API Pokémon, je la connais par cœur maintenant. Donc, je suis en train de faire ça cette semaine. Et puis, je poste pas mal dessus sur Twitter pour montrer un peu les évolutions. Donc, c'est plutôt cool. Et après, quand j'aurai fini ça, je repars à fond sur la 3D. Parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait. J'ai un projet 3D que j'ai commencé il y a 2 ans, je crois. C'est ce projet. En fait, j'ai commencé, je trouvais ça trop cool. C'est un projet dans l'espace où tu contrôles un petit vaisseau spatial. Et le problème, c'est qu'il est long. Donc, je fais des pauses ou je fais d'autres projets entre temps.
C'est ça.
Et quand je reprends, ben, j'ai envie de tout refaire différemment parce que j'ai fait une grosse pause et je fais ça depuis 2 ans. Donc là, cette année, j'arrive à mieux me cadrer niveau
projet.
Et donc là, après, je me suis dit, je me remets dessus et je finis. J'ai clairement défini ce que je voulais faire. Je veux pas aller plus loin. Je finis ce que je vais faire. Comme ça, après, je le partage, je le mets en ligne et puis moi, ça me servira et puis je pourrai passer à autre chose, quoi. Mais voilà. Là, c'est clairement mon objectif, c'est de monter en compétence sur la 3D parce que j'aime trop ça. Si je peux en faire un peu à côté du travail, pourquoi pas, tu vois. Et me former sur React aussi en même temps. Parce que l'écosystème de React autour de TriJS, il est trop bien. Il y a plein de gens qui ont déjà fait plein de composants trop cool. Donc, ça évite de tout redévelopper à chaque fois.
Monter
des projets 3D super vite et des trucs très propres et qui fonctionnent très bien, quoi. Et comme je connais peu React, je me dis que c'est l'occasion de découvrir sous un angle que j'aime bien, sous l'angle de la 3D, quoi. Comme ça, j'utilise plutôt Vue.js au travail et du JS natif. Donc, du coup, ça me permet de voir un peu l'autre côté des deux gros qui sont utilisés. Mais oui, les projets perso, c'est cool parce que tu peux voir des trucs. Après, on voit beaucoup ce débat sur Twitter notamment. Est-ce qu'on est obligé de faire des projets perso pour être un bon développeur? J'aurais dit non, on s'en fout. Chacun sait ce qu'il veut, quoi.
C'est ça. Ben, ouais. Moi, je bosse avec des devs qui, bah, ça fait plus de 10 ans qu'ils sont devs. Ils ont pas de projet perso et pourtant.
Ah ouais, moi aussi. Il y a des devs, ils rentrent chez eux, ils arrêtent de dev, quoi. Et puis voilà, ils devent que au travail et il y a aucun problème. C'est juste, ça dépend de la personnalité de chacun, quoi. Moi, vraiment, j'ai mis du temps à arriver dans le dev, du coup. C'est vraiment une passion maintenant que je suis dedans. Et j'ai aussi une sensation de vouloir rattraper le temps perdu, tu vois. Donc, j'ai pas fait des longues études où j'ai pu tester plein de trucs, donc j'ai envie de tester plein de trucs maintenant. Et du coup, tout ce que je peux pas tester dans mon travail, ben, je le teste.
Voilà, je suis dans le même état d'esprit, c'est que je suis arrivé tard. C'est, enfin, ce domaine-là, il était très loin pour moi. Et quand je suis arrivé dedans, c'était une révélation. C'est que j'ai envie de tester plein de trucs, j'ai envie de, je m'éclate quand je vois, je fais un truc et, enfin, je le vois s'afficher ou je vois des gens l'utiliser, ça m'éclate.
Puis il y a tellement de domaines que bah tu peux bosser des projets perso pendant trop longtemps. J'ai vu que tu avais commencé à travailler la data là.
C'est ça, c'est ça. J'essaie de...
Ça c'est super intéressant.
C'est moi, d'élargir.
Ça m'intéresserait, mais j'essaie de me canaliser maintenant. En fait, les deux premières années, vraiment tout m'intéressait. C'est horrible. Donc, tout a l'air trop bien, mais tu peux pas tout apprendre d'un coup. Donc là, j'ai un peu une pas une révélation, mais une remise en question cette année où je me suis dit que je me concentre vraiment sur certaines choses.
Mais du coup, comment tu t'organises, toi, avec le travail, projet perso, vie de famille?
En gros, moi, j'ai des journées assez cadrées. On a des horaires fixes qui sont tous les jours pareils. Je suis en présentiel, du coup. Donc, mes journées, c'est 9h-18h, en gros, à peu près. Le matin, j'emmène ma fille à la crèche. Elle est à la crèche à côté de mon travail. Donc, vers 8h45, on part vers 8h20 de la maison, tu vois. Donc, c'est assez tôt. J'aimerais bien partir plus tard. Et j'emmène à la crèche, après j'enchaîne journée de travail et le soir je la récupère à la crèche après 18h et puis on rentre à la maison vers 18h45, donc ça fait des bonnes journées et donc ça laisse de quoi travailler pour le boulot. Et le midi en général je mange vite et après je bosse mes projets perso toute ma pause du midi parce que je me dis que là j'ai mon matériel, donc j'ai tous mes écrans, matériel pro du travail, et j'ai pas les enfants à la maison qui vont me distraire. Donc j'avance un max sur les projets perso et après bah le soir de temps en temps. En ce moment là tu vois je suis plutôt sur une période où je travaille pas le soir, mais il y a des périodes où j'aime bien me poser le soir tranquille dans mon bureau quand tout le monde est au calme et là j'arrive à rebosser une heure ou deux sur des projets perso quand vraiment je suis à fond sur des périodes de dev quoi. C'est beaucoup le midi et j'essaye de me faire un planning à l'avance pour pas me perdre et pour me motiver. Là, tu vois, je me suis dit sur une semaine et demie, je monte mon petit projet de Pokédex pour faire de la veille. Après, je sais qu'après, j'ai un autre projet de finir mon vaisseau spécial. Après, je me forme à React. Après, je me fais un portfolio en 3D. Tu vois, j'ai tout mon planning de fait et je me rends compte que c'est beaucoup plus facile quand tu cadres un peu les trucs de respecter ce que t'as.
C'est ça, c'est mieux de... Enfin, t'essaies de planifier la semaine. Moi, c'est ce que je fais pareil. Parce que quand t'as, en plus, t'as plusieurs projets perso, c'est que tu peux en laisser un mourir et après revenir. Deux mois plus tard, tu dis non, en fait, c'est n'importe quoi.
Et je sais pas toi, mais moi, j'arrive pas à avoir qu'un seul projet perso à la fois. C'est tout le temps, j'en ai tout le temps deux ou trois. Et du coup, je jongle, mais tu vois, là, mon projet perso qui a 2 ans, ben, voilà, il va bientôt mourir. Je m'occupe de lui. C'est pour ça que j'ai envie de le terminer parce que j'aime bien, tu vois, ce que j'ai fait dedans, mais ça fait tellement longtemps que j'en ai marre. Donc, j'ai pas envie que ça recommence, donc maintenant j'essaye de me cadrer un peu.
Ouais, j'essaie de, tu vois, de commencer un, de le sortir d'abord, puisqu'un projet perso, en vrai, il est jamais fini, mais par exemple, la plateforme de mentorat, j'essaie de sortir une version 1.
Tu commences déjà fini.
C'est ça, que des personnes puissent l'utiliser au moins de manière basique, et après, je peux commencer d'autres projets et je sais que je dois le maintenir. Je veux pas le laisser mourir.
Tu rajoutes des trucs en plus. Là, j'ai vu que tu avais fait le reverse job qui arrive. Donc,
c'est ça. J'essaie de me canaliser aussi.
Ouais, c'est ça. Mais bon, tu viens de commencer React Native, quoi.
Aussi. Bon, en fait, l'application que je fais en ce moment, c'est un projet, je crois, qui doit avoir, pareil, un an et demi.
Ça fait un moment que tu avais commencé à en parler.
J'ai commencé, je l'ai carrément perdu de mon ordinateur, j'ai supprimé, je l'avais même pas pushé sur GitHub pour te dire.
Ouais, donc t'avais plus rien.
Voilà, j'avais plus rien. Et du coup, je me suis dit, allez, on va essayer de relancer un petit truc. Mais là, c'est quelque chose de jongler entre tout ça.
Ouais, c'est dur. Ça demande un mental un peu perturbé. Quand tu fais des projets perso avec des langages différents, c'est dur de passer d'un côté et de l'autre. Quand tu passes du back au front, c'est plusieurs fois dans la journée, c'est un peu galère. Et ça te fait des journées complètes. Moi, je sais que du coup, comme je fais mes projets perso le midi, qu'au travail, je peux avoir des projets avec des langages différents, enfin des frameworks différents. Et du coup, au final, tu peux bosser sur deux langages différents et 4 frameworks dans la journée.
C'est ça.
Ah, c'est perturbant un peu. Mais au moins, je dors bien le soir. Le soir, quand tu arrives et tout, tu te mets au lit, il n'y a pas de problème.
C'est ça, tu as juste envie de fermer, c'est bon.
Ouais, c'est ça. À part quand tu penses à tes bugs et que ton cerveau, il veut pas s'arrêter, mais...
Ça, c'est le pire cauchemar, ça. C'est le truc à ne pas penser le soir.
Horrible, hein. Quand tu as l'impression de passer toute la nuit à débugger un truc, c'est pas reposant du tout.
Et du coup, je voulais te demander, est-ce que tu aurais des conseils pour une personne qui voudrait se lancer dans une reconversion pro ?
Ouais, carrément. Moi, j'ai eu pas mal de... Alors, ça fait un moment que ça peut arriver, mais quand j'ai fini au clock, j'ai pas mal de gens qui me demandaient des conseils par rapport au clock, justement, parce que c'était la période où ils avaient un peu le vent en poupe, où ça a explosé d'un coup. Il y a plein de gens qui allaient à cause du... Enfin, grâce, je sais pas, au Covid. Mm-hmm. Du coup, c'était un des gros qui faisait en télétravail, donc tout le monde voulait savoir des trucs. Il n'y a pas de... J'ai envie de dire qu'il n'y a pas de prérequis pour être développeur ou... peu importe, moi j'ai vu des gens qui étaient boulangers avant dans la formation, qui faisaient des trucs qui avaient rien à voir, tu vois, qui étaient dans la logistique, qui avaient jamais touché de code. Il y en a qui faisaient déjà des projets perso de leur côté depuis 10 ans, tu vois. Et là, ils ont tous fini la formation, ils ont tous eu leur diplôme à la fin. Il y en a qui ont abandonné, qui n'ont pas eu de poste, mais c'était pour des raisons personnelles.
C'est pas autre raison.
Ça veut pas dire que c'est pas possible, quoi. Donc déjà, il faut pas se mettre d'a priori j'ai pas fait de maths, j'aime pas les maths. Enfin, ça, on s'en fout. Tu fais des maths quand tu fais du développement. Enfin, tu peux faire des maths si tu fais de la data ou des fois, tu as des fonctions un peu compliquées où il y a une logique. Mais en vrai, c'est pas le plus important, quoi.
C'est
ce que tu as fait avant, ça détermine en rien ce que tu vas faire. Le plus important, c'est, je dirais, avant de se lancer, c'est de tester. C'est pas de se dire, je vais faire une reconversion et on va voir si j'aime ça. Parce que ça demande quand même une implication pour...
C'est énorme.
Assez folle. C'est pas un métier facile du tout. Faut pas... Je sais pas. S'il y a des gens qui croient ça, faut pas le croire. Parce que ça reste assez dur à apprendre. Hein. C'est comme apprendre des nouvelles langues, quoi. C'est super galère. Et t'as une rigueur à avoir aussi. Donc, ça aide si t'es assez rigoureux. Mais ça s'apprend aussi. Mais moi, je dirais, ouais, avant de se lancer dans un truc où tu dois payer une formation, tu dois... arrêter ton travail, trouver un truc, tu testes de ton côté. Il y a des plateformes pour, il y a des vidéos YouTube où tu peux apprendre, faire des projets. Il y a Open Classroom où tu peux faire plein de tutos gratuits. Donc, pour toutes les personnes qui veulent tester, d'abord, on découvre de son côté. On voit si vraiment il y a un intérêt et la petite passion, là, la petite passion qui arrive, là,
la petite flamme, la petite flamme qui chauffe.
Et là, c'est bon. Il n'y a pas de doute. Parce que ça demande un gros investissement après. Et comme on disait au début, quand t'es développeur, t'apprends tous les jours. T'apprends pas genre 6 mois, 2 ans, 5 ans, et après c'est bon. Ouais. T'as toutes les techniques. Il y a des frameworks qui sortent tous les ans, voire tous les 3 mois.
C'est ça.
Et tu vas jamais travailler sur les mêmes technos toute ta vie. Et du coup, voilà, il faut accepter il faut aimer apprendre. Moi, c'est un truc que j'aime trop. En fait, j'ai arrêté le marketing parce qu'au bout de 5 ans, j'avais l'impression vraiment d'avoir fait le tour de mon domaine et je stagnais niveau challenge, on va dire. Et là, du coup, en dev, c'est trop bien. Tu peux te dire tous les ans, t'apprends un nouveau truc.
C'est ça. Tous les jours, c'est fou.
C'est ça. Et je dirais que c'est la base le plus important. C'est vraiment se forger la flamme et la motivation de se lancer. Et si t'as ça, c'est bon. Faut trouver la bonne formation aussi, faire gaffe. Mais bon, ça, c'est un peu compliqué. Essayer d'avoir des retours de personnes qui ont déjà fait. Pas se lancer dans des petits organismes pas trop connus parce que tu sais jamais.
C'est ça. Ça peut être très, très compliqué.
Il y a aussi des organismes qui sont là pour faire de la course au financement et du coup qui font pas de la qualité derrière. Donc, c'est un peu galère si tu t'investis tout dans un truc où ils s'en foutent de t'apprendre des compétences. Mais ouais, avoir la motivation, choisir l'organisme, se motiver pour avoir un financement, ça peut être fatigué, ça peut faire peur, mais franchement, quand tu te dis que tu vas pouvoir être tranquille chez toi et que t'es payé pour apprendre des trucs, ça reste.
C'est ça, même faire ce que t'aimes, on va dire.
Ouais, c'est ça. Que ce soit par Pôle emploi, via les CPF ou Transition Pro, il y a pas mal d'options qui sont possibles. Il faut juste se renseigner, du coup, parce que c'est pas très connu. Mais pour les reconversions, en tout cas, pour les reconversions, ça peut le faire, quoi. Après, pour les jeunes qui veulent hésiter pour se lancer dans les études, là, c'est comme toutes les personnes qui savent pas quoi faire comme études au lycée, hein. J'ai pas de conseils à donner. T'écoutes ton intuition et puis tu le regretteras peut-être.
Faut tester, de toute façon.
Et tu peux pas se faire avant, quoi. Ça reste des longues périodes où tu vas t'engager pour 3 ans, 5 ans, mais de toute façon, avant de te lancer, c'est pas possible de le savoir avant. Hein. Mais c'est possible pour tout le monde, tant qu'il y a la motivation et la rigueur qui sont là, ça vaut le coup, on va dire.
Mais là, moi, tu m'as l'air épanoui dans ton quotidien, tu fais des petits projets,
t'as l'entreprise qui est à côté de la maison. Et est-ce que tu verrais des petits points, on va dire, un peu plus négatifs? Parce qu'on voit souvent enfin, on voit que les bons côtés du dev, même sur Twitter, sur les réseaux.
Ouais. Oh, il y a du négatif, hein. T'as quand même alors, selon les postes que t'as, mais t'as quand même une pression. Parce que tu devs sur des sites, nous, on devs sur, tous les logiciels tous les ERM qu'utilise l'entreprise. Donc, on va dire que si tu casses un truc, c'est un peu chiant pour le business, quoi. Tu peux empêcher des gens d'envoyer des colis, tu peux empêcher des gens de passer une commande, enfin, tout ce genre de trucs. Ça, selon ton domaine, si tu bosses sur un projet perso tout seul, tu t'en fous. Il n'y a que toi qui l'utilise.
C'est ça.
Quand tu bosses sur des sites où il commence à y avoir des milliers, dizaines de milliers, centaines de milliers de personnes qui l'utilisent, la pression, elle est un peu là parce que tu fais plus gaffe. Tu te dis, quand je mets en prod, si ça pète, c'est plein de gens que ça va faire chier. Et ça va péter un moment, de toute façon. C'est impossible de jamais casser quelque chose.
Oui, c'est ça.
Et selon ton domaine, je pense que du coup, ça dépend vraiment des personnes et de là où tu travailles. Mais tu peux avoir une pression qui est plus ou moins forte et qui peut fatiguer au quotidien. Et ça, c'est un des points qui peut être négatif. Et la masse d'informations à apprendre aussi. Je sais qu'il y a des... Moi, j'ai vu des personnes abandonner parce que tu te sens inondé par... En fait, t'as l'impression de jamais avancer, quoi. T'apprends un truc et t'as l'impression qu'il y a 10 nouveaux trucs à apprendre qui viennent de se débloquer. Et du coup, tu peux pas avancer. Donc, c'est un peu relou. Et un des derniers points que j'aime pas trop, mais c'est un point que j'aimais pas trop dans mon ancien travail aussi, c'est que moi, ce que j'adore, c'est développer des trucs, c'est créer des nouvelles features, voir un projet avancer, continuer, être concentré dans ce que tu fais et tout. Et sauf qu'il y a des jours où tu peux pas, quoi. Il y a des jours où on va t'envoyer des teams dans tous les sens, on va dire il y a ça qui marche pas, regardez. Là, tu vois, ce matin, j'ai fait que ça. J'ai fait que traiter des emails et des trucs où des erreurs qui remontent, faut trouver pourquoi, ou on te pose des questions de j'aimerais bien faire ça, mais je sais pas comment. Et du coup, il y a des jours, au fait, où tu te dis, je vais travailler, je vais développer des features, tu le fais pas, parce qu'on te pose tous ces questions. Je pense que tu vis ça aussi.
Je sors d'une matinée pareille, j'ai même pas touché mon éditeur de code.
Ouais, ça, c'est frustrant. Après, il y a des gens qui aiment, les réunions, ça peut être intéressant si c'est une réunion pour imaginer une nouvelle feature, un truc comme ça. Après, t'as des réunions métiers où...
c'est plus ça qui est...
T'as des réunions, c'est long pour pas grand-chose, où tu tournes en rond et voilà. Et c'est pareil, les bugs, t'as des bugs intéressants à résoudre parce que c'est cool de chercher. Moi, c'est un truc que j'adore, débugger dans une grosse code base.
C'est ça.
Trop bien, parce que tu dois comprendre, ça te force à comprendre du coup comment c'est fait, dans les moindres détails. Mais après, il y a des bugs à la con où tu mets des et là, tu perds du temps pour rien.
C'est ça, tu t'énerves tout seul.
En fait, c'est surtout ce qui est frustrant, c'est de te dire, allez, aujourd'hui, je vais faire ça. Et au final, tu peux pas parce que tu as plein d'autres trucs et tu dois bosser sur plein de petits sujets différents. Il faut en être conscient. Être développeur, c'est pas passer genre tous les jours de la semaine dans sa bulle et pouvoir... Alors, ça peut. Je pense qu'il y a des domaines où ça peut.
Oui, ça peut, mais c'est vrai que c'est rare quand même.
Et moi, je suis dans un cadre où, dans mon service, du coup, et comme Hugo, il l'a expliqué, je crois, dans le podcast assez bien, c'est que on fait pas des sites pour des clients externes à la boîte. On fait des sites pour la boîte. Donc, en fait, on développe pour nos collègues. Ce qui est très cool parce que tu vois les personnes utiliser ce que tu fais.
Dès qu'elles ont un souci, elles viennent te voir direct.
Le problème, c'est que s'il y a un problème, c'est pas genre quelqu'un qui envoie un ticket sur GitHub d'un truc qui marche pas ou qui remonte via un forum. C'est genre le gars qui arrive, qui te tape l'épaule et qui te dit « moi, c'est cassé ». Et du coup, il y a un problème ou qui envoie un Teams. Donc du coup, c'est un peu la contrepartie, c'est que la distraction, elle arrive très vite, quoi. Donc ça, on essaye de le cadrer un peu. De toute façon, il faut que ça soit centralisé un peu pour garder une trace de ce que les gens remontent. Mais voilà, c'est un peu, des fois ça peut être un peu chiant, mais ça n'entache pas du tout ma passion pour le métier. Et moi,
de toute façon,
ça peut tous les jours, franchement.
Voilà, ça peut pas être 100% rose, il y a des petits points négatifs, mais le positif l'emporte.
C'est ça, tout à fait. Ça reste un très beau travail quand tu aimes bien et que tu t'éclates dedans, je trouve que c'est un très beau métier.
Et là, du coup, tu te formes, tu m'as dit sur, tu veux te former sur React, tu te formes un peu sur de la 3D. Est-ce que tu aurais des petites ressources à nous donner si on veut faire pareil aussi?
Carrément. Alors, ça dépend du domaine. Je sais que moi, j'aime beaucoup les vidéos sur YouTube. Je trouve ça cool parce que t'as un aspect visuel qui est sympa et ça permet de refaire un peu les trucs derrière. Pour tout ce qui est Laravel, parce que ça reste en bac ce que je connais le mieux, il y a Laravel Jutsu. De toute façon, je te passerai les liens.
C'est ça, tu me fileras, je mettrai tout ça en description.
Laravel Jutsu, qui est un français, qui fait des vidéos en français, du coup, donc ça reste cool. Des trucs très intéressants, de plusieurs niveaux différents sur le framework Laravel depuis un moment. Et il est très sympa en plus. Donc pour Laravel, il y a ça. Après, moi, ce que j'aime bien suivre pour toute la partie front, c'est une chaîne qui s'appelle NetNinja. Donc, je sais pas si tu le connais.
Je le connais. Très fort.
Et c'est trop bien. Et ce qui est trop bien avec lui, c'est que il fait du, alors c'est des petits formats de vidéos. C'est des vidéos entre 1 et 7 minutes. Et c'est beaucoup plus facile à suivre qu'une vidéo de 2h30 sur comment monter une application en Vue.js ou en React. Et il fait plein de séries. Il fait des séries sur React, sur Vue, sur des stores, sur des sujets très précis. Et en fait, quand tu te poses une question, bah, une série complète, ça va mettre 20 minutes pour la regarder, mais c'est des épisodes de 3 minutes, donc tu peux t'y mettre un midi tranquille et tout. Et,
c'est ça, et ça se fait rapidement.
Et l'édition des vidéos est trop cool. Et lui, j'en ai beaucoup regardé. Je sais que pour React, je vais regarder un peu, je pense, de ces vidéos. Et la 3D, s'il y a des gens qui s'intéressent, il y a le boss de la 3D qui est un Français, qui est Bruno Simon.
Bruno.
Ouais, le fameux Bruno, qui a monté une formation qui s'appelle 3JS Journée. Que j'ai
je
fait.
L'ai, tu sais que je l'ai, ça
l'ai
fait, je l'ai la formation, ça fait 1 an et demi que je me dis je vais faire de la 3D et j'ai jamais trouvé le temps de...
La formation est super complète, je crois que maintenant tu vas avoir 60 ou 70 heures de vidéo, un truc comme ça, c'est énorme. Et moi je l'ai fait du coup, j'ai fait il y a 2 ans et franchement trop bien. Alors elle est en anglais la formation, mais il a un bon accent français, du coup quand t'es français c'est cool pour comprendre.
C'est ça.
Et maintenant il ajoute la traduction, les sous-titres. Je sais pas s'il l'a fini sur toutes les vidéos, mais il ajoute les sous-titres. En tout cas, big up à Bruno, parce que il est trop fort.
Travail incroyable.
Ouais, je sais qu'il me motive pour continuer à faire de la 3D et tout. Et il a rajouté l'année dernière un chapitre sur React et React Tree Fiber, du coup, qui est l'écosystème 3JS sur React, que j'ai pas encore fait parce que j'avais pas le temps et l'envie. Et là, maintenant, cette année, je me suis dit, allez, je me lance là-dedans. Donc, je vais me lancer dans ce chapitre. Et j'ai acheté une autre formation aussi. C'est Wawa Sensei, je crois, il s'appelle. Et c'est un Français aussi qui habite au Japon et qui fait des formations en 3JS. Je te passerai le lien.
Ok. Oh, tu nous partageras ça.
Ouais, je partagerai ça. Et après, moi, je sais qu'à une époque, ça fait longtemps que j'en ai pas fait parce que je me suis parti sur la 3D, mais j'ai fait beaucoup d'exercices d'algorithmes. J'aimais bien ça au début pour apprendre à résoudre des petits problèmes et surtout coder des petits bots ou des trucs comme ça. Et je faisais ça sur Coding Game, qui est une plateforme assez connue aussi. Et voilà, il y a plein de types d'exercices. Et moi, ce que j'aimais trop, c'est vraiment coder des petits bots. Genre, t'as un scénario, genre, t'as une usine qui fabrique des robots, tu dois te combattre contre une autre usine qui fabrique des robots en prenant plein de thématiques en compte. Et tu montes, tu fais de la programmation orientée objet, tu montes un peu ton truc pour qu'il soit autonome et tu lances des vagues et c'est des matchs, au fait. Et celui qui gagne le plus de matchs a gagné. Et franchement, c'est trop intéressant. Parce que t'as un truc un peu concret, quoi. C'est pas juste un exercice d'algo où on dit, bah voilà, ton entrée c'est 2 et 5, faut qu'à la fin ça fasse 7 et trouve ce qu'il faut faire, quoi.
C'est ça, c'est un peu interactif, c'est un peu.
C'est interactif, t'as le visuel qui se passe, tu vois vraiment ce que t'as codé qui bouge et tout. Et ça, j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps là-dessus, sur mes 2 premières années de développeur, on va dire. Maintenant, je suis plus sur la 3D, parce que c'est encore plus cool.
Tu peux faire
3D, c'est trop bien. Mais je sais que Coding Game, pour ceux qui veulent monter en compétence en algorithmie, même si franchement, je pense qu'il y a une faible partie de développeurs qui fait de l'algorithmie poussée au quotidien. Ça reste rare. Hein. Dans mon job, c'est quand même assez rare que j'ai besoin de faire de l'algo et ça reste de l'algo simple. Donc, c'est bien de comprendre l'algo, mais ça fait pas tout. Enfin, c'est pas utile dans 100% des cas, quoi.
Oui, voilà, c'est bien de savoir un peu, enfin, pour entraîner ta logique, tout ça, mais.
Ouais, c'est ça, mais voilà, il y a pas, ça va pas changer ta vie de développeur. Et après, il y a une chaîne que j'aime bien regarder, mais qui c'est plus des sujets de la tech, c'est MiCode.
MiCode. On présente plus.
J'en regarde souvent. Alors, je suis pas un fan de MiCode dans le sens où je regarde toutes ses vidéos, je regarde quand ça sort et tout, mais quand j'en croise une sur un sujet qui me plaît, je sais que ça va être bien, quoi, parce qu'il creuse bien le sujet. Il y a un bon travail journalistique derrière et quand il parle d'un truc, c'est vraiment qu'il connaît bien. Et c'est plutôt cool. Et c'est ça qui est bien avec le métier aussi, c'est qu'il y a plein de ressources, quoi. Alors c'est bien et c'est pas bien parce que on peut paraître dur de choisir. C'est ça aussi. Donc, ce qui est important, c'est que tu te fais ton petit vivier de ressources que tu as l'habitude de regarder et puis tu te cadres là-dessus, quoi.
Ouais, faut réussir vraiment à trier, pas être noyé sous l'info, sinon ça devient un cauchemar.
Tout à fait. Moi, je commence à avoir un Twitter assez bien trié. Je me sers que de Twitter pour la veille, mais ça va maintenant. J'ai que le contenu qui m'intéresse. Donc, quand on arrive là, c'est cool. Parce que après, ouais, t'as plus le faire d'efforts pour avoir de la veille. Ça, c'est trop bien.
Ah ouais, c'est plutôt cool. Et est-ce que tu aurais un petit mot de la fin, un petit truc à nous rajouter?
Bah, moi, je dirais merci déjà pour ton travail, pour ton podcast. Et franchement, même pour ton activité sur Twitter, c'est cool parce que t'as bien percé. Et je sais que t'es un des développeurs qui m'a motivé depuis l'année dernière à poster pas mal sur Twitter et à partager mon travail.
Et ça fait grave plaisir à entendre. Merci. Hein. Merci.
Depuis que je me suis mis au building public sur Twitter, ça m'a aidé à me cadrer aussi parce que tu te dis que tu fais un truc et tu peux pas t'arrêter parce que t'es en train de le montrer. Et c'est trop bien. Et ça a trop changé ma manière de faire des projets perso. Donc, merci. Ouais,
j'ai vu ton Pokédex là. Enfin, oui, beaucoup de personnes l'ont partagé. T'as eu beaucoup d'avis dessus. C'est top. Hein.
J'étais trop content. Mais voilà, hein, pour finir, du coup, big up à tous les développeurs et les développeuses du monde entier parce que on a un métier cool et un écosystème qui est quand même trop bien. Il y a une bulle de développeurs sur Twitter qui est cool, même s'il y a des dramas de temps en temps, ça fait partie de la vie de Twitter.
Ça, c'est normal.
Ça, mais franchement, pour finir, on va dire que j'ai mis longtemps à réussir à faire ce métier et que je regrette jamais. C'est trop bien. Je regrette juste d'avoir perdu du temps avant, mais c'est pas grave. Même si vous pensez que vous pouvez être développeur et que vous avez pas réussi une première fois, ça vaut le coup de retenter. Il y a des ressources qui sont là, on peut apprendre plein de trucs quand on est motivé. Donc,
c'est ça, rien n'est jamais fini.
Ouais, c'est ça, rien n'est jamais fini.
En tout cas, ça m'a fait grave plaisir de t'avoir parce que on se croise souvent sur Twitter.
Ah oui, moi aussi. C'est cool de se voir en visuel.
C'est cool de se retrouver et de discuter un long moment et partager ça surtout. Je pense que ça aidera beaucoup de personnes. Bah, tes tips sur le fonds gestif, donc des personnes qui sont en CDI, ça va les aider peut-être à découvrir ce truc-là.
Il faut y aller, c'est long, mais ça rapporte.
Bon, en tout cas, merci à toi d'être passé là et je te dis à très bientôt, Damien.
Ça marche, bon courage pour les autres podcasts.
Merci. Allez, ciao. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. Tu peux me soutenir en mettant une note sur Spotify ou Apple Podcast et en partageant cet épisode à quelqu'un de ton entourage. Je te donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouveau Parcours Tech. En attendant, retrouve-moi sur mon Twitter, @mansjs. À bientôt.